chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir, comme à l'habitude, deux émissions dans ce libre journal des amitiés françaises. Nous recevons tout d'abord à 18h Damien Chantraine, qui est le directeur du musée des Avelines, à l'occasion de cette exposition qui est en cours jusqu'au 5 juillet et qui est consacrée à l'aéronautique, à l'aventure aéronautique à Saint-Cloud. Et puis, deuxième partie, à 19h30, nous recevons Marie-Anne Vanier, qui est professeure de théologie, à l'occasion de la publication de ce livre, son livre Artege, Lire les Pères de l'Église, nouvelle anthologie patristique. Et le thème de l'émission, c'est Pâques et les fêtes des rameaux avec les pères de l'Église, qu'ont-ils écrit sur Pâques et sur les rameaux. Ce sera le thème donc de cette deuxième émission. Malheureusement, nous n'avons pas de standard ce soir. Il ne sera pas possible de téléphoner pour intervenir, poser des questions, faire des remarques que nous proposerions à notre vie. En revanche, vous pouvez le faire par courrier électronique. N'hésitez surtout pas, chers auditeurs. Nous serons heureux, bien entendu, de proposer vos messages à nos invités. Je rappelle l'adresse de la radio, courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Et nous commençons donc maintenant cette première partie d'émission. Quelle est la capitale historique de l'aéronautique française? Alors on pense à Toulouse, on pourrait dire aussi ici les Moulineaux, puis d'autres villes encore. Eh bien, c'est raté. C'est une ville qui est au bord de la Seine et qui est proche des studios de Radio Courtoisie. Il s'agit de Saint-Cloud. Saint-Cloud, certes, est plus connu pour son parc magnifique et le regret teinté de remords, d'ailleurs, d'un château magnifique qui fut hélas victime d'un obus français en 1870, mais que les Prussiens qui l'occupaient ont laissé complaisamment brûler. En effet, c'est à Saint-Cloud que se matérialise ce rêve ancestral qui est celui de voler, grâce notamment à des expérimentations audacieuses. C'est une aventure saisissante que celle des pionniers de l'aventure justement aéronautique. Une passionnante exposition nous l'a fait découvrir en démarrant tout au début de cette histoire, celle des montgolfières au XVIIIe siècle jusqu'aux usines Dassault. On sait l'importance que Dassault prend pour la France, et notamment avec tous ces conflits et l'importance de la souveraineté. Eh bien, Saint-Cloud abrite l'une des plus importantes, et en tout cas aussi le siège de cette entreprise. Et c'est d'ailleurs toute une partie de cette exposition, toute une salle qui est consacrée à cette usine fondée donc par Marcel Dassault. C'est donc une aventure très française à laquelle d'ailleurs de nombreuses femmes ont participé. C'est ça aussi que nous fait découvrir. C'est l'un des mérites de cette exposition, c'est de nous le faire découvrir. Et c'est dès le XVIIIe siècle. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que dès le XVIIIe siècle, eh bien, ces femmes n'ont vraiment pas froid aux yeux et participent très activement à cette aventure aéronautique dans la ville de Saint-Cloud. Cette exposition se tient au musée des Avelines et nous avons le plaisir d'en recevoir le directeur et le commissaire Damien Chantraine. Damien Chantraine, bonsoir.
Bonsoir Thierry, plaisir partagé. Que j'ai plaisir de vous revoir à chaque fois, puisque ce n'est pas la première fois que je participe à une émission sur Radio Courtoisie et je suis en plus toujours tellement bien reçu.
Eh bien, c'est avec grand plaisir, c'est un plaisir partagé. Et c'est ainsi que vous veniez ce soir évoquer cette belle et intéressante exposition comme celle que vous nous proposez au musée des Avelines. C'est vrai que vous nous faites découvrir une histoire qui est méconnue, c'est l'importance de Saint-Cloud dans cette aventure aéronautique. Nous allons le voir avec vous ce soir. Et cette exposition succède d'ailleurs à celle que vous avez consacrée à Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette, elle était comme tous les Français de cette époque, au XVIIIe siècle, absolument passionnée par cette aventure qui débute donc par le vol des montgolfières, les fameuses vols en ballon. Bien sûr, ça a commencé à Versailles, Mais ça a suivi très très rapidement à Saint-Cloud, vous allez l'évoquer. Alors je voulais vous présenter à nouveau aux auditeurs de Radio Courtoisie, mais ils vous connaissent bien, donc ça sera un simple rappel, Damien Chantraine. Vous êtes bien sûr, je l'ai dit, le directeur du musée des Avelines à Saint-Cloud, vous êtes docteur en histoire de l'art, vous êtes aussi enseignant à l'école du Louvre. Vous enseignez l'une de vos spécialités, d'ailleurs, qui sont les beaux-arts au XVIIe siècle. C'est un vaste sujet. Hein. Et puis, vous avez aussi une grosse expérience de directeur de différents musées. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter, préciser?
Je crois que c'est tout à fait bien, complet.
Ça suffit. Non, ce n'est pas complet, parce que j'ai vu beaucoup d'autres choses dans votre riche carrière professionnelle. Alors, j'aimerais vous poser la première question, qui n'est pas originale mais nécessaire, c'est la raison qui vous a conduit à faire cette exposition qui est très originale. C'est vrai, quand on pense à Saint-Cloud, on pense bien sûr avant tout au château, ce qu'il y a autour. Vous avez fait aussi des expositions sur différents artistes qui ont résidé à Saint-Cloud. On pense à Gounod, aussi à Émile Verhaeren, puis bien d'autres encore. Alors d'ailleurs, c'est l'occasion, puisque je parle de ces différentes expositions, celle la dernière, juste avant, qui a eu elle aussi beaucoup de succès, consacrée à Marie-Antoinette, c'est que nous fassiez tout d'abord un rappel justement de ce qu'est le musée des Avelines.
Alors le musée des Avelines, c'est un lieu de quiétude, je crois, qui se trouve au milieu d'un jardin, qui s'appelle le jardin des Avelines, du nom de la petite noisette qui y pousse. C'est une variété de noisettes, les Avelines. Et le musée siège au sein de la Villa Brunet, qui est une villa édifiée dans les années 1930, façon art déco, plutôt néoclassique, qui ressemble un peu à la Maison Blanche, et qui est une commande d'un mania de la pharmaceutique, Daniel Alfred Brunet, un peu excentrique dans son genre, assez dandy, ayant écrit d'ailleurs un comprimé d'ironie, pour rendre hommage à sa profession, qui commence par l'art d'être riche. L'art d'être riche, c'est ne pas confondre le verbe être et le verbe avoir. Je trouve que c'est très très beau. Ma foi, ce dandy excentrique avait également une très très belle collection Napoléon Ier, jusqu'à ce que sa demeure ait été revendue à la ville. Les héritiers, en fait, se sont séparés de cette collection et la villa a été désossée. Mais aujourd'hui, ça permet à la ville de Saint-Cloud de présenter toute une nouvelle collection qui est celle de la collection municipale, qui nous permet de raconter l'histoire de cette ville de Saint-Cloud, je dirais depuis la naissance de Saint-Clodoald, qui a donné son nom à cette ville, et à notre gentilé, les Clodoaldiens et Clodoaldiennes, jusqu'à nos jours.
Une histoire qui est fort riche. Et une collection, vous avez aussi une collection permanente.
Oui, justement, côté, il y a une collection permanente qui est très importante.
Qui est importante, en effet, pardonnez-moi.
Qui est composée de 5000 œuvres, hein, pratiquement. Oui. Alors, bien évidemment, il y a des gravures, des dessins, mais aussi beaucoup de peintures, de sculptures dans nos réserves que nous montrons régulièrement, parce que les accrochages de la collection permanente sont plutôt renouvelés.
Oui.
Il y a une salle qui est fixe, c'est celle qui est consacrée au château de Saint-Cloud que vous évoquiez tout à l'heure, et par la destruction de 1870. Et il faut bien que nous en parlions, parce que ce château n'est plus visible actuellement dans le parc de Saint-Cloud. Malheureusement, je dirais, en effet, ça fait partie des grands monuments français qui ont disparu. Il y en a bien d'autres. Mais celui-ci, je dirais, on a un petit pincement au cœur supplémentaire, parce que c'était vraiment le grand château au XVIIe siècle, justement, sous Louis XIV, qui était le château qui appartenait à son frère, monsieur Philippe d'Orléans, et qui ensuite a été racheté. Et puis par Marie-Antoinette en 1785, confisqué à la Révolution française, puis ensuite habité comme lieu de villégiature par le premier consul, devenu ensuite Napoléon Ier, et puis sous le Second Empire par Napoléon III et l'impératrice Eugénie.
Et dans vos collections permanentes, vous avez une riche collection aussi d'un peintre assez particulier, mais qui est donc Carrière, c'est ça, c'est le...
Oui, Eugène Carrière.
C'est ça.
C'est un peintre à qui nous avons consacré une exposition en 2024, qui avait été déclarée d'intérêt national parce qu'elle mettait en regard les œuvres d'Eugène Carrière avec celles de sculpteurs comme Auguste Rodin ou encore Antoine Bourdelle, mais également avec des photographes. puisque l'œuvre d'Eugène Carrière, pour celles et ceux qui la connaissent, c'est une œuvre plutôt dans des camailleux de gris ou de brun, qui font beaucoup penser justement à la statuaire en marbre blanc qui joue de son environnement de lumière, mais également à la photographie noir et blanc de l'époque ou sépia, s'il y a une déclinaison de couleurs.
Et vous proposez d'ailleurs dans cette salle du rez-de-chaussée, une belle salle d'ailleurs, un certain nombre de peintures et de dessins de lui, beaucoup autour de la tendresse maternelle, de la mère et des enfants.
Oui, parce que c'était l'un de ses thèmes de prédilection en effet, hein, la tendresse maternelle, ses œuvres s'appellent souvent Maternité d'ailleurs, et c'est sa famille qu'il représente,
sa femme et ses enfants. Et alors c'est un peintre, qui a sa particularité, effectivement c'est beaucoup des tons un peu sombres, camailleux, etc., mais qui a toujours une très forte cote. Il a tout récemment, un de ses tableaux, d'ailleurs qui est très proche d'un de ceux que vous présentez, aux enchères, a quand même atteint la thème de 140 000 euros. Donc c'est quand même un peintre qui reste très cherché. Hein.
Nous, on n'a pas ces budgets d'acquisition, bien sûr, mais de toute façon, nous avons 77 carrières, donc c'est suffisant, on va dire. On a d'autres lacunes dans la collection et nous concentrons par l'achat, en effet, d'autres œuvres. On a acquis à peu de temps une œuvre qui appartenait à Marie Bonaparte, qui avait sa villa à Saint-Cloud et qui était patiente de Freud, mais aussi traductrice de Freud de l'allemand au français. Et donc elle a contribué à la diffusion de cet art de la psychanalyse en France. Elle-même a eu des patients à Saint-Cloud. Et l'œuvre que nous avons acquis, qui est une œuvre de Lucien Lévy-Durmer, qui représente un paysage très sombre, peut-être représentant ce qu'était l'inconscient, puisqu'il y a une petite lumière qui surgit au bout du chemin. Très intéressant hein, pour ce qu'est finalement la psychanalyse, c'est faire surgir cette lumière de soi. Eh bien, cette œuvre était au-dessus de son divan, du divan où elle consultait. Donc c'est vraiment une œuvre importante pour la psychanalyse que nous avons achetée. Le musée d'Orsay nous avait dit d'ailleurs, cette œuvre va faire des prix faramineux en vente, vous ne l'aurez jamais. Et finalement, on a eu beaucoup de chance. Oui. Et les amis du musée l'ont acquis pour le musée municipal de Saint-Cloud.
Parce que Marie Bonaparte était une clodoaldienne.
Oui. Elle a été clodoaldienne pendant plus de 40 ans, je crois.
Et son cabinet était à Saint-Cloud.
Elle recevait à Saint-Cloud. Il y a une histoire qui est formidable à Saint-Cloud, hein, qui traverse à la fois les grandes personnalités régnantes, bien sûr, celles qui ont le pouvoir en main et qui ont contribué à l'histoire de la France, mais aussi des petites histoires, des personnes qui se sont implantées à Saint-Cloud, célèbres ou moins célèbres, et qui par ces petites histoires contribuent à la grande histoire de notre nation.
Alors, je vais vous poser la question habituelle, hein, c'est pourquoi cette exposition, l'exposition précédente, était consacrée à Marie-Antoinette. J'ai complètement de sujet, même si le point de départ est un peu le même. On part du XVIIIe siècle dans cette histoire, dans cette aventure de l'aéronautique à Saint-Cloud, Saint-Cloud dans les nuages, hein, c'est le titre que vous donnez d'ailleurs à cette exposition, une aventure aéronautique. Donc, comment avez-vous eu l'idée de cette exposition?
Alors, l'idée de cette exposition, elle est née d'un constat, quand je suis arrivé à la direction de ce musée il y a maintenant 4 ans, de pouvoir arriver dans cette histoire que l'on établit, que l'on écrit de Saint-Cloud à la complétude. Alors évidemment, nous n'y arriverons jamais, enfin j'espère peut-être dans plusieurs siècles, qui sait, quand plusieurs historiens et historiens de l'art s'y seront attelés. En tout cas, pour ma part, je souhaitais évoquer cette histoire de l'aéronautique à Saint-Cloud parce qu'elle n'a jamais été étudiée. Et donc, cette lacune était finalement une bonne base pour pouvoir écrire quelque chose de nouveau. Et puis alors, traduisez ce nom d'exposition en anglais, et vous allez comprendre.
Ah bon, je vous laisse le faire.
Saint-Cloud dans les nuages. Seen cloud in the clouds.
Ah, en effet.
Ce Saint-Cloud d'Oald a donné le nom à la ville de Saint-Cloud.
Ah oui.
Et cloud en anglais veut dire nuage. Donc vraiment, c'est une exposition qui n'est pas du tout à côté. Hein. On est vraiment dans le vif du sujet, y compris
anglais.
Dans la dénomination française.
De c'est une histoire française, hein, vraiment. Vous allez voir, c'est vraiment une histoire française. Teinté un peu de brésilien, certes, mais vraiment dans l'esprit français.
Hein, oui, complètement dans l'esprit français. Je dirais de toute façon que l'aéronautique est née en France. Bon, pensez au Fermont Golfière, certes. certes dans le sud-est de la France, en Ardèche, et puis très vite, cette montgolfière qui s'érige dans le ciel sous les yeux ébahis de Louis XVI et de Marie-Antoinette à Versailles. Nous sommes en 1783, et puis très vite encore derrière, un ballon, puisqu'on les appelle comme ça à l'époque, un ballon, et non pas montgolfière. Ça, c'est une dénomination qui est beaucoup plus tardive, en fait, en hommage aux inventeurs. Mais ce ballon s'élève depuis le parc du château de Saint-Cloud, donc depuis le domaine des Orléans, en 1784.
Le 15 juillet 1784, hein, c'est ça ?
Tout à fait.
Est-ce que 15 juillet 1784. Vous commencez l'histoire par là.
Et ce ballon s'appelle la Caroline.
C'est formidable, mais alors ce qui est encore plus formidable, c'est que Louis-Philippe d'Orléans est dans la nacelle. Ça traduit aussi l'engouement partagé des Français à l'époque. Louis-Philippe est dans la... Il n'a pas froid aux yeux, quand même. Il ne faut pas avoir peur, parce que c'est quand même une...
Il faut être très courageux, parce que je vais vous dire, en recensant les noms des personnes qui ont contribué à l'histoire de l'aéronautique, on peut dire qu'un gros tiers est mort en vol. Donc, les autres vivent très, très âgés. Donc, ça entretient quand même une certaine forme. Sont des personnes d'ailleurs qui ont souvent une forme physique d'enfer. Ils ont la ligne. Ils sont souvent pas bien lourds. On peut les comparer aux jockeys, vous savez, sur les chevaux.
Oui.
Santos Dumont, dont nous reparlerons tout à l'heure,
pesait
50 kilos.
Oui.
Entre 47 et 50 kilos. Mais alors, justement, j'aimerais revenir sur le pourquoi du comment de cette exposition.
C'est ça.
Et surtout sur le fait qu'il y ait deux raisons. La première... c'est que cette histoire de l'aéronautique ne pouvait commencer que dans les Hauts-de-Seine et particulièrement à Saint-Cloud, parce que Saint-Cloud est dans les nuages déjà. C'est une ville qui est nichée sur les hauteurs d'une colline, surplombant d'ailleurs cette plaine parisienne qui est formidable, avec toujours ce même panorama aujourd'hui. Hein. C'est l'un des plus beaux panoramas sur Paris. Et je crois que la question sensible de l'émotion que l'on ressent devant un beau paysage a contribué au fait que de nombreux aéronautes soient partis de Saint-Cloud. Mais également la présence de cette famille d'Orléans au château de Saint-Cloud, cette pleine propriété du château jusqu'en 1785, puisque le château est acquis par Louis XVI pour son épouse Marie-Antoinette à cette année-là. Mais en 1784, justement, si le ballon La Caroline est parti dans le bas-parc du château de Saint-Cloud, c'est parce que il était propriété de Louis-Philippe d'Orléans, qui à l'époque était duc de Chartres, qui deviendra duc d'Orléans, et puis ensuite, au moment de la Révolution française, Philippe Égalité, avec ce destin que nous connaissons. Bon, il a connu la guillotine aussi, mais c'est aussi celui qui a voté la mort de son propre cousin, Louis XVI. C'était une voie déterminante dans ce qui a été la fin de cette monarchie absolue à la française au moment de la Révolution. Et c'est un homme qui était particulièrement ouvert à la philosophie des Lumières, mais qui était ouvert aussi aux sciences et techniques. Et donc, il a encouragé le développement de la science, des techniques, et particulièrement, justement, de ces ballons qui sont allés dans le ciel. Si je parle de ça, c'est parce que, justement, il a été proche de plusieurs inventeurs, et notamment de Jacques Charles et des frères Robert, qui sont l'inventeur des ballons à hydrogène, c'est-à-dire un gaz plus léger que l'air. Et donc, on me pose souvent la question, alors je vais tout de suite vous répondre parce que vous ne me la posez pas encore, mais je suis sûr que vous allez la poser. Comment est-ce qu'on faisait de l'hydrogène au XVIIIe siècle?
Oui. Alors, j'avais d'autres questions à vous poser.
Je l'ai su il y a peu. Alors, je vous dis ça et puis après, je vous laisse poser votre question.
Allez-y.
Parce que c'est un détail technique auquel sont attachés beaucoup d'auditeurs, j'imagine. Et moi, je ne m'en suis pas soucié au départ, mais finalement, bon, c'est vrai que... on se pose la question. Donc, l'hydrogène est produit par le mélange dans de grands barriques, grandes barriques, de limaille de fer et d'acide chlorhydrique. Et donc, on place le ballon au-dessus, hein, la toile du ballon, et il se remplit d'hydrogène qui est produit par ce mélange. Il faut 4 jours pour remplir un ballon. Voilà. Donc, c'est quand même une entreprise qui a une...
Mais c'est chauffé, non ? Il y a une opération particulière ou ça se fait naturellement ?
Ça ne s'est surtout pas chauffé, justement, parce que l'hydrogène est inflammable.
Ah oui, donc en effet.
Voilà, et donc on compte sur l'hydrogène justement, qui est un gaz plus léger que l'air, pour pouvoir faire s'élever le ballon.
C'est le phénomène
après,
de production
on peut monter,
d'énergie.
On peut descendre grâce au lest que l'on lâche.
Oui, ça c'est pendant le vol, mais ma question c'était... Par rapport à la production d'hydrogène proprement dit.
Ah là, non, c'est pas chauffé. Justement, c'est vraiment le mélange qui produit ce composé chimiquement.
C'est très, en effet, très, très ingénieux. Et donc, mais tous les ballons ne sont pas à l'hydrogène à l'époque.
Alors, il y a des ballons qui sont à l'air, qui sont justement chauffés pour le coup.
C'est ça.
Oui, oui, oui. Ça produit justement cet élan vers le ciel.
La question que je voulais vous poser, justement, puis on va revenir à la présentation d'ensemble de cette exposition, comment vous avez monté votre parcours, les œuvres que vous proposez. En tout cas, c'est une exposition qui est importante, puisqu'il y a deux salles de plus qu'à l'habitude, il faut le préciser. Il y a six salles qui se succèdent avec des objets, des objets techniques, naturellement, mais aussi de nombreux objets d'art, des peintures, des gravures, certaines peintures...
180 œuvres.
Oui. 180. Nous allons en parler. Mais alors, ma question, puisque vous évoquez ce vol avec Philippe d'Orléans, c'est quand même impressionnant, qui part de Saint-Cloud, qui arrive après 45 minutes jusqu'à Meudon. D'où part-il dans le parc?
Alors,
il y a une gravure, vous montrez une gravure en plus de ce vol.
Oui, oui, il part du bas parc du château. Et voilà,
de la cour du château,
de la
non,
cour du château,
du château.
Plutôt en bas du château.
En bas du château.
Entre la Seine et le château.
Le château, oui.
Voilà. Et c'est devant les yeux ébahis, évidemment, de toute l'aristocratie, mais aussi du peuple qui vient voir cette curiosité, parce qu'à l'époque, c'est quelque chose de nouveau. Je veux dire, voir un ballon s'élever dans le ciel au XVIIIe siècle, c'est voir un ovni débarqué sur Paris aujourd'hui.
Oui,
vous imaginez qu'on ne voyait que des papillons et des oiseaux dans le ciel. Hein. Donc, vraiment, c'est quelque chose de complètement ahurissant. D'ailleurs, le premier ballon à hydrogène qui s'élève dans le ciel et qui part des Tuileries, lui, en 1783, et qui a servi de modèle à la Vasque Olympique en 2024... C'est un ballon qui s'est écrasé dans le village de Gonesse et les gens de Gonesse, les habitants, ont été tellement ébahis et surtout apeurés que lorsque le ballon s'est écrasé, ils ont éventré la bête. En fait, ils pensaient que c'était un dragon envoyé par Satan, d'autant que l'hydrogène sent le soufre. Donc, on les voit d'ailleurs au musée, ce peuple qui accueille ce ballon à sa manière, avec des fourches, avec des cailloux pour vraiment éventrer la bête. C'est sur une toile de Jouy qui nous est prêtée par le musée de la toile Jouy.
Oui, vous proposez sur le
ballon. Qui date de l'année 1783-84.
Comment vous retrouvez ce objet? On va parler bien sûr des 180 que vous présentez et puis la manière dont vous avez bâti cette exposition, le parcours. Mais comment pouvez-vous retrouver une toile de Jouy représentant justement cette scène du ballon de Gonesse?
Alors il y a plusieurs choses, parce que là il y a une quinzaine de prêteurs pour cette exposition, dont de grandes institutions prêteuses qui sont partenaires, comme le musée de l'air et de l'espace du Bourget. Évidemment.
C'est naturel. Hein.
Dassault Aviation, on en reparlera, mais aussi l'Aéroclub de France, et puis d'autres musées, comme le musée départemental de Sceaux, ou en effet le musée de la Toile de Jouy. Alors comment localise-t-on des œuvres? Comment les repère-t-on? De plusieurs manières, en fait. D'abord, on établit un recensement des œuvres qui pourraient être en lien avec notre sujet. En regardant sur Internet, nous sommes des conservateurs des temps modernes, parce que sur Internet, il y a des choses bien pratiques, d'ailleurs nous sommes dans l'obligation de le faire nous, c'est la publication des œuvres de nos collections sur des bases de données qui sont accessibles en ligne. La plus connue étant celle qui est une base de l'État qui réunit aussi des œuvres, des collections des musées territoriaux, qu'ils soient municipaux ou départementaux. C'est la base Joconde, un très beau nom en plus. Hein. Voilà, on peut y voir ces œuvres-là. Et donc, vous saisissez des termes comme Saint-Cloud ou aéronautique ou ballon et vous voyez ce qui sort. Voilà, ça vous donne un petit socle. Et puis après, il y a un réseau d'amitié aussi, bien sûr, parce que faut le dire que monter une exposition, c'est toujours en fait une aventure humaine. qui repose sur des liens solides que l'on a avec nos collègues, en fait. Il y a pratiquement 1200 musées français qui ont l'appellation Musée de France, c'est le cas de Saint-Cloud, pour lesquels il y a une exigence doué d'ailleurs de conseils et du contrôle de l'État, exercé par les DRAC, les Directions Régionales des Affaires Culturelles, qui sont l'expression de la déconcentration de l'État, puisqu'ils sont rattachés au ministère de la Culture. Voilà, donc ce réseau-là, en fait, fonctionne très très bien. Et puis après, évidemment, il y a les particuliers. Mais lorsque vous discutez avec vos collègues du projet que vous montez, ils vous disent « Ah ben tiens, tu devrais contacter un tel, etc. » Et là, vous voyez, de fil en aiguille, ou je dirais, dans cet effet boule de neige, votre corpus d'œuvres s'établit, se forge. Et c'est comme ça que vous arrivez à 180 œuvres. En fait, il y en a beaucoup plus, mais il y a des prêts qui sont refusés. Il y en a qui sont acceptés, mais il y en a qui sont refusés. Donc c'est une histoire que vous établissez. Avec des lacunes, toujours dans une exposition temporaire, hein, où que vous alliez d'ailleurs. On la souhaite la plus complète possible, mais toujours dans une exposition temporaire, il y a des œuvres qui n'ont pas pu être prêtées.
On ne va pas vous demander les lacunes de cette exposition, je ne les ai pas remarquées d'ailleurs. Oui, je n'ai pas remarqué qu'il y avait des lacunes dans votre exposition d'Alain Chantraine, dont je rappelle le nom, Saint-Cloud dans les nuages, une aventure aéronautique, ça se tient au musée des Avelines à Saint-Cloud jusqu'au 5 juillet. Pour se rendre à l'exposition, puisque autant le préciser maintenant, c'est facilement accessible en transport en commun.
Oui, 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 complètement.
En voiture, bien entendu, mais en transport en commun aussi.
Mais bon, de façon plus large, en Île-de-France. Vous pouvez venir par la ligne 10, vous vous arrêtez à Boulogne-Pont-de-Saint-Cloud. Et ce qui est le terminus, et puis ensuite vous pouvez prendre un bus, le 160, ou venir à pied si vous êtes un peu plus courageux. Faudra monter justement cette colline, depuis laquelle vous aurez ce très très beau panorama.
Et si vous ne voulez pas monter la colline, il y a le train aussi, gare de Saint-Cloud.
Alors de l'autre côté, oui, il y a aussi le train, en effet, vous pouvez partir de Saint-Lazare. Et là vous prenez la L ou la U, et là, voilà, vous y êtes en 20 minutes à la gare de Saint-Cloud.
Là vous êtes tout près du musée.
Ou depuis la Défense, c'est 7 minutes jusqu'à la gare de Saint-Cloud, et après à pied assez facilement jusqu'au musée des Avelines.
D'accord. Alors comment avez-vous monté le parcours d'exposition?
Alors le parcours est, parce que moi j'aime bien que les parcours soient thématiques. Vous savez, je vous ai habitué un petit peu à ça avec ces parcours autour d'artistes consacrés plutôt aux beaux-arts. Et là, c'est une exposition plutôt historique. De ce fait, c'est une exposition chronologique. Donc de 1784 jusqu'à nos jours. Et ça permet le mieux possible de comprendre cette aventure aéronautique qui est déjà suffisamment complexe. Et je dirais de ne pas perdre le visiteur. Donc comme ça, vous comprendrez bien les différentes étapes de l'évolution de cette aéronautique à Saint-Cloud, mais finalement aussi dans le monde entier, parce que les grandes figures qui se sont exprimées, qui ont exprimé leur art ou leur technique à Saint-Cloud, sont des figures mondialement connues pour la plupart.
Il y a une œuvre particulière qui a été créée pour cette exposition.
Ah oui, c'est vrai.
D'un peintre.
Oui.
D'un peintre, j'allais dire un peintre de la marine, mais c'est un peintre officiel de la marine, de l'armée de l'air et de l'armée de terre. Il est peintre de tout, je crois.
Oui, oui, complètement.
C'est une belle peinture. Je vous laisse l'évoquer. Et comment cette idée s'est-elle concrétisée?
Alors, il s'agit d'une œuvre d'un peintre qui s'appelle Christophe Debuchère. Je ne vous l'appellerai pas. Si, peut-être.
Pourquoi pas?
Allez, Debuchère, et qui est né en 1962. C'est un peintre vivant, contrairement aux artistes que nous présentons souvent au musée de Saint-Cloud. Et jeune, qui a été initié par sa mère à la peinture, l'artiste Nicole Lacombe, qui ensuite s'est formé à partir de 1870 auprès d'un autre peintre qui s'appelle Philippe Lejeune, et qui aime bien travailler sans contrainte académique, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par le dessin. Et c'est la grande qualité souvent des peintres dits de la marine ou de l'air. Mmh. On connaît souvent les peintres de la marine, mais on ne sait pas qu'il y a aussi des peintres de l'air.
Mais lui, il cumule.
Et lui, il cumule les deux en plus. Hein. Oui. Donc c'est un statut qui permet d'être dégagé de toute contrainte financière, je dirais, et de pouvoir vivre comme un aventurier, de monter sur un porte-avions, pourquoi pas le Charles de Gaulle, de partir à l'aventure avec tous ses marins, et puis aussi de monter dans des avions. il y a peu de temps, il était encore au Maroc. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui vit une vie d'aventurier et qui part avec, avec ses peintures, avec ses chevalets. Et qui, de ce fait, comme il ne passe pas par le dessin, peint de façon très impulsive, de façon très, très directe, avec l'acrylique, avec l'huile, sur la toile. Voilà. Et généralement, ces toiles sont faites en peut-être 2 heures, 3 heures. Et après, il faut le temps que ça sèche, bien évidemment. Mmh. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui suit cette aventure aéronautique moderne aujourd'hui et qui avait toute sa place dans cette exposition avec une œuvre qui a été en effet réalisée spécialement pour nous. Parce que bah, je parlais de lien d'amitié tout à l'heure, mais en fait, moi, j'ai découvert cet artiste dans un autre cadre pour préparer une autre exposition. Et de ce fait, j'ai entretenu des liens avec lui parce qu'il me semble très sympathique et puis surtout que j'aime beaucoup sa peinture. Voilà. Alors parfois, il y a des coups de cœur comme ça. Et de ce fait, il a proposé de faire une œuvre en écho à la Demoiselle, qui est l'un des avions légers de Santos-Dumont et oui. Qui est présenté au sein de ce parcours que vous avez très bien décrit.
Une belle peinture. Il y a d'ailleurs 2 peintures de Debussy.
Il y en a 3.
Mon Dieu.
Il y en a 2 en fait dans la salle consacrée à Dassault Aviation. C'est une ça, qui de, représente oui, un effet. Jaguar et une oui. qui représente les chaînes de fabrication
oui.
Rafale.
C'est ça, oui, il y a dans la dernière salle d'exposition.
Et donc la 3e, elle est dans la grande rotonde du musée, dans l'escalier monumental qui conduit voilà. à la
on
deuxième
justement
partie.
Justement la demoiselle, nous allons parler de la demoiselle en effet. Alors je vous propose de revenir au début de cette exposition, de revenir à la salle, à la première salle où là vous... Débutez donc l'histoire avec ce vol de Saint-Cloud à Meudon, vol dans lequel auquel participe donc le Louis-Philippe d'Orléans. Et vous présentez dans cette salle effectivement un certain nombre d'objets, de peintures, de gravures. Je vous laisse en présenter peut-être quelques-uns.
Ben oui, parce que je vais peut-être faire découvrir quelque chose à nos auditeurs. Mais il y a un courant artistique qui existait dont on parle très très peu. Et qui a s'est étendu sur 3 années seulement, l'année 1783, 1784 et l'année 1785. Et ce courant s'appelle la balomanie, parce qu'en fait à ce moment-là, il y a eu tout de suite des balomaniaques, c'est-à-dire des personnes qui ont été fascinées, tellement fascinées par ces vols de ballons, ces premiers vols de ballons, qui est passionnée aussi par la poésie de cette forme ronde et de cette forme allongée. Qui était celle de la Caroline, donc qui est partie depuis le château de Saint-Cloud, et bien qu'ils ont voulu retrouver cette forme du ballon dans les objets d'art qui meublaient leur maison. Donc on la retrouve sur les sièges, par exemple un dossier de siège en forme de ballon, sur les toiles de Jouy, on en a parlé, sur les horloges, sur tout un tas de choses, des lustres également. Voilà, donc,
et vous présentez un beau lustre d'ailleurs.
Je présente un très très beau lustre, oui. Vraiment, et qui est un lustre du 19e siècle. Parce que si j'étais venu vous parler de l'exposition Marie-Antoinette, une reine à Saint-Cloud, qui a eu lieu précédemment au musée des Avelines, eh bien je vous aurais dit à quel point le 19e siècle a été fasciné à la fois par la personnalité de Marie-Antoinette, par le biais de cette grande figure qui est l'impératrice Eugénie, une sorte de sororité entre souveraines, mais également par les formes du XVIIIe siècle. Donc il y a ce revival des formes du XVIIIe siècle, comme il y en a eu au même moment et un peu plus tard pour les formes gothiques, qui a donné naissance au style néo-gothique, par exemple. Et donc ce lustre que l'on peut voir au sein du musée des Avelines actuellement, c'est un lustre du 19e siècle, mais qui reprend tous les codes de l'art du 18e siècle, et justement de cette courte période de la ballomanie. Donc c'est un lustre en forme de ballon. D'ailleurs, le ballon en soi est évoqué par ces strass, ces verroteries, qui donne tout cet aspect très léger, très aérien à l'œuvre, la nacelle étant elle-même le support des luminaires.
Et vous proposez aussi une belle pendule montgolfière de l'échaupier.
Alors, c'est une pendule montgolfière, en effet, de l'échaupier. Je vais même vous révéler quelque chose là en direct. C'est que il y a un aspect chez cette pendule qui m'a intéressé beaucoup. Au début, on pensait qu'elle pouvait être datée de l'année 1783, mais en réalité, je pense qu'elle date de l'année 1784. Vous voyez, on réécrit toujours l'histoire, en fait. Hein. Mmh. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, le corps de la pendule adopte une forme ovoïde qui était celle de la Caroline de Saint-Cloud, qui adoptait justement cette forme qui donnera d'ailleurs la forme au dirigeable plus tard. Alors que les premiers ballons qui se sont envolés avaient des formes plutôt rondes. Mmh. Voilà. Et donc, forcément, c'est une pendule qui a été réalisée après 1784. J'ai l'impression que vous avez un message d'un auditeur.
Oui, un auditeur qui nous envoie ce message que je vous propose, si vous voulez bien. Et donc, il faut se rappeler, nous dit cet auditeur, qu'Antoine Lavoisier avait mis au point un procédé pour fabriquer plus facilement et rapidement de l'hydrogène. Mais comme la Révolution n'a pas besoin de savants, il fut exécuté le 8 mai 1794.
Ah, Lavoisier. Oui. Lavoisier. Mais vous remarquez que je ne suis pas un historien des sciences et techniques.
On remercie
d'autant
plus.
Je suis un historien de l'art et pour le reste, je fais ce que je peux. Mais merci pour cette intervention parce que les compléments d'information, évidemment, sur ces techniques, ces sciences-là, nous sont très très précieux à nous comme aux auditeurs.
Alors, si on poursuit le parcours chronologique, dans la suite, il y a aussi une partie de l'exposition qui est très intéressante, qui est un peu plus tardive et qui se déroule pendant la guerre de 1870, enfin un petit peu avant la guerre d'ailleurs, et puis après la guerre, parce qu'après la guerre de 1870, ça va être déterminant naturellement dans l'évolution de l'aventure aéronautique à Saint-Cloud. Je vous laisse évoquer cette partie. Vous proposez des œuvres, d'ailleurs, des œuvres d'art originales et intéressantes.
Oui,
particulièrement.
Des œuvres intéressantes à plus d'un titre, parce que déjà, elles sont magnifiques.
Oui.
Et en plus de ça, elles racontent une histoire. Cette histoire, c'est l'aéronautique à Saint-Cloud, à la fin du 19e siècle cette fois-ci. Vous évoquiez en introduction de cet entretien l'année 1870, c'est le siège de Paris, les Prussiens sont à Saint-Cloud, tirent à coups de canon en direction de Paris depuis cette colline, c'est une position hautement stratégique. Seulement, les Parisiens, eux, sont complètement enfermés dans leur ville et ne peuvent transmettre aucun message. On n'avait pas encore Internet ou le téléphone au gouvernement libre qui est d'ailleurs basé à Tours à cette époque-là. Et donc pour cela, il faut transmettre des messages au-dessus des lignes ennemies. Alors, suivez mon regard, les hauteurs de Saint-Cloud, la colline du Mont-Valérien, à Suresnes, eh bien ces collines, on les franchit grâce à des ballons. Des ballons qui s'envolent depuis la butte Montmartre. Une soixantaine de ballons, 66 d'ailleurs de mémoire précisément. Une entreprise aéronautique encouragée d'ailleurs par un photographe qui deviendra très célèbre par la suite, qui est Nadar, qui a fait de très nombreux portraits. Ces ballons étaient porteurs de messages justement en dehors des lignes ennemies. Ça a plutôt bien fonctionné. Il y a eu plusieurs milliers de messages qui ont comme ça pu être transmis en dehors des lignes des Prussiens.
Une partie du gouvernement qui va pouvoir s'exfiltrer de Paris, bien sûr, avec le
capitaine. Tout à fait, grâce au ballon, donc ça c'est formidable. Et alors là, nous, une œuvre représente ceci en particulier, c'est une œuvre intitulée d'ailleurs « Le ballon » de Pierre Puvis-Chavannes. Donc, un artiste hautement célèbre de la fin du 19e siècle et qui a un sous-titre pris d'ailleurs d'une poésie de Théophile Gautier. Ce sous-titre, c'est « La ville de Paris investie, confiée à l'air, son appel à la France ». Alors c'est une œuvre patriotique qui porte là toute la ferveur et tous les espoirs des Parisiens de pouvoir reconquérir leur ville. Meurtrie. C'est une femme qui est armée, qui est en fait une allégorie de la ville de Paris et qui est vêtue d'une robe austère, noire, et qui se tourne donc vers les hauteurs du Mont-Valérien et elle désigne un ballon en train de s'échapper dans l'air, comme ça, de sa main. Donc c'est une œuvre, en plus de cela, hautement poétique. j'insiste sur ce terme de poésie, parce qu'en fait, j'ai voulu donner beaucoup de poésie. Comme je ne suis pas un historien des sciences et techniques, j'ai voulu donner beaucoup de poésie. C'est une intention importante pour moi dans cette exposition. Et je crois qu'en fait, on est conduit d'un bout à l'autre, un peu comme si on était hors du temps, prêt à s'envoler soi-même derrière. Quoi. En tout cas, on s'évade, notre esprit nous s'évade.
Cette poésie, vous avez souhaité la traduire à travers les œuvres que vous présentez. Hein, dont celle-là, qui est très belle, mais qui est originale dans l'œuvre de Puvis de Chavannes.
Oui.
Elle est assez originale, même dans sa forme.
Oui, complètement, parce que Pierre Puvis de Chavannes est plutôt tourné vers la représentation spirituelle d'une réalité. On le connaît notamment pour ses grands décors, avec ses muses, ses poètes, justement. Là, on est vraiment face à une œuvre patriotique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a réduit sa palette pour cette œuvre-là, presque d'ailleurs comme l'œuvre qui sera celle d'Eugène Carrière un tout petit peu plus tard. Hein.
Oui.
On peut dire que celle de Puvis de Chavannes a certainement été observée par Eugène Carrière. C'est une palette rouge pour montrer justement le sang, la guerre, jusque dans le ciel.
Vous présentez aussi dans cette partie intitulée « Guerre et paix » d'autres œuvres, mais dont l'histoire est plus liée effectivement à ce que vous montrez dans la salle 2, la salle suivante, qui est donc l'installation de l'Aéroclub de France, justement dans le quartier des Coteaux à Saint-Cours. Je ne sais pas si vous voulez évoquer d'abord ces œuvres que vous présentez dans cette salle qui sont très belles d'ailleurs, et qu'on peut d'ailleurs pour partie admirer toujours dans le patrimoine architectural de la ville de Saint-Cloud, ou si vous préférez évoquer d'abord l'histoire de cet Aéroclub de France.
Ben je vais y revenir sur cette histoire de l'Aéroclub de France.
Oui.
D'abord en effet parce que Saint-Cloud en effet est une ville sur les hauteurs, ça on l'a bien compris, mais que cette histoire en fait de l'aéronautique est tellement présente qu'elle s'exprime par une politique édilitaire et notamment sur le plan religieux, par l'érection d'une église qui s'appelle Notre-Dame-des-Airs de 1913 à 1919. Mmh. Cette église, elle existe toujours, elle est du côté du Val d'Or, donc un quartier de Saint-Cloud, sur ce quartier d'ailleurs très bien nommé des Coteaux. Où s'installera l'aéroclub de France. Et cette église, elle est surmontée par une vierge sculptée qui est dressée sur son pinacle, tournée vers la ville de Paris et qui protège encore de nos jours les aviateurs parisiens. C'est quand même formidable. Et à l'intérieur de cette chapelle, il devait y avoir un décor qui n'a pas été réalisé par un clodoaldien qui s'appelle Gaston Latouche, que certains connaissent peut-être. Et elle a représenté la Vierge des aviateurs, une Vierge qui est posée sur l'aile d'un avion léger, du type parfait, développé par Santos Dumont d'ailleurs. Donc une œuvre qui date de 1913. Cette œuvre n'a pas pu être réalisé à fresque dans l'église, puisque Gaston Latouche est mort au moment où il devait commencer à la réaliser, à la peindre. Puis c'est à ce moment-là également que se développe en particulier la foire de Saint-Cloud, une foire qui existe depuis le Moyen-Âge, qui est une foire patronale, mais qui a des accents laïques, et notamment des manèges, ballons, des manèges en forme de ballons, des manèges en forme de dirigeables, parce que justement, nous sommes à Saint-Cloud.
Je voudrais revenir juste sur cette esquisse de Latouche. Donc c'est le seul souvenir de cette peinture que nous ayons. C'est l'esquisse de Latouche qui est au musée d'ailleurs, qui fait partie des collections permanentes du musée, c'est ça?
Tout à fait. C'est l'un des seuls souvenirs que nous en ayons et qui est magnifique parce qu'elle est complètement
très
à part dans l'œuvre de Gaston Latouche, qui est plutôt une œuvre mondaine au sein de salons, parfois à contenu dramatique, des scènes qu'on peut imaginer comme étant des scènes de viol. Mais là, c'est vraiment une œuvre qui est une œuvre préparatoire à une fresque, avec ce sujet que Gaston Latouche connaissait bien, celui de l'aéronautique à Saint-Cloud, parce qu'il le vivait lui aussi, il y habitait, et donc il voyait ce qui se passait, et il n'a pas échappé à cet élan, finalement, iconographique, qui était celui de représenter cette aventure.
Et puis, la paix, en quelque sorte, qui est la statue de Jean Tourneau, qui représente Notre-Dame-des-Airs, en effet, qui est une belle sculpture. Jean Tourneau, c'est un sculpteur...
Un sculpteur de Saint-Cloud, également.
Important de
l'époque. On a fait appel à des gens locaux, à des gens du cru. qui n'est pas très important dans l'histoire de l'art, mais qui a finalement façonné cette Vierge, les deux grands bras ouverts en direction de Paris.
Et que l'on peut toujours admirer.
Qu'on peut toujours admirer également au sein de la collection du musée des Avelines.
Mais elle est aussi
Elle est sur le pinacle de l'église.
Elle
a été remplacée depuis par une autre sculpture plus récente possède plutôt des... qui a été façonnée dans les années 1950.
Cette décision de bâtir cette chapelle Notre-Dame-des-Airs, elle était prise par qui? Pour quelle raison justement? C'était parce qu'il y avait ce développement sur les coteaux de l'aéroclub de France. C'est ça qui a amené... Parce que c'est une belle chapelle en plus, hein.
c'est une
architecture
église,
intéressante.
Oui, c'est une église paroissiale, hein, donc c'est vraiment la volonté de l'église. Et en même temps, elle se situe sur des terrains qui appartenaient à la ville à l'époque. Et ces deux dialoguaient en fait hein, pour réaliser cette église que nous connaissons aujourd'hui.
Alors Damien, je vous propose une façon, une petite pause et un message de la radio écouté, suivi d'une pause musicale. Vous allez nous expliquer ce que vous avez choisi, pourquoi vous avez choisi une pièce de Mozart, un rondo. Et puis parce que nous allons aborder, après cette pause, un tournant, en quelque sorte, dans l'histoire de l'aéronautique, de l'aventure aéronautique de Saint-Cloud. Je rappelle que c'est le thème de cette belle exposition intéressante et originale, parce qu'elle nous fait découvrir le rôle important de la ville de Saint-Cloud dans l'aéronautique française. C'est l'installation, en effet, de l'Aéroclub de France, avec deux membres éminents, dont un particulier qui marque absolument l'aventure aéronautique, c'est Alberto Santos-Dumont, que vous évoquez, effectivement, que vous racontez, dont vous montrez effectivement il y a beaucoup de peintures, d'objets, de souvenirs le concernant. Et vous nous faites aussi découvrir sa vie, parce qu'on connaît son nom, mais on connaît mal son existence. Donc je vous propose d'écouter alors ce rondo de Mozart. Pourquoi vous avez choisi cela? C'est joué au piano par Christian Zacharias.
Deux raisons. Vous allez voir que c'est un exercice parfaitement aérien que celui de ce jeu de touche que vous allez entendre. Et puis Mozart, parce qu'on est dans le beau XVIIIe siècle.
Très bien. Alors nous écoutons le message de la radio. Et Mozart, le rondo en fa majeur, joué par Christian Zacharias au piano.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir Damien Chantraine, qui est directeur du Musée des Avines et commissaire de cette très intéressante exposition Saint-Cloud dans les nuages, qui est jusqu'au 5 juillet au Musée des Avines, rue Gounod, je crois.
Hein, oui, c'est bien ça, 60 rue Gounod.
60 rue Gounod, et qui justement raconte cette aventure particulière à Saint-Cloud, qui en fait en quelque sorte la capitale historique de l'aéronautique. Damien Chantraine nous a tout d'abord expliqué le rôle de Saint-Cloud dans l'expansion justement des ballons des montgolfières, avec ce fameux vol à partir du château de Saint-Cloud jusqu'à Meudon, avec comme équipage Louis-Philippe d'Orléans. Et nous en arrivons maintenant à une étape cruciale de l'histoire de Saint-Cloud dans l'aéronautique, c'est l'installation de l'aéroclub de France, justement dans le quartier et des Coteaux, toutes les conséquences que cela va avoir, et notamment avec l'intervention de personnalités extrêmement célèbres qui seront très marquantes, comme effectivement celle d'Alberto Santos Dumont. Je vous laisse, Damien Chantraine, évoquer cette histoire que vous illustrez d'ailleurs parfaitement avec de très beaux souvenirs de cette période, aussi bien artistique que technique. Je vous laisse
évoquer. Ce sont des souvenirs qui proviennent du Musée de l'Air et de l'Espace, mais également de l'Aéroclub de France lui-même, qui existe encore de nos jours, qui est très actif d'ailleurs. Très curieusement, alors que l'aventure aéronautique est au départ française, les premiers aéroclubs qui sont créés le sont en Angleterre. Il y en a un qui est créé en 1866 là-bas, mais en France on attend 1897. Et là se crée l'Aéronautique Club de France, et un an plus tard, en 1898, se crée l'Aéroclub de France. C'est pas du tout la même chose, c'est deux clubs en fait d'aéronautes. Celui dont nous parlons donc est le plus récent, d'une année quand même, donc fondé en 1898. L'Aéroclub à cette époque-là s'installe dans un immeuble du 8e arrondissement. Aujourd'hui, il est installé dans le 16e arrondissement, pas très loin de là où nous sommes, à Boissières. Et entre-temps, l'aéroclub acquiert en 1901 un terrain à Saint-Cloud, dans ce quartier des Coteaux. Et c'est là que vont être organisées des expéditions, des expérimentations, des compétitions, tout ça sous le joug justement de cette cinquantaine de membres fondateurs de l'Aéroclub de France. Ils sont 52 précisément à cette époque-là. Alors il y a bien entendu Santos Dumont.
Alors, on va parler bien sûr de Santos Dumont, mais qui sont-ils? Ce sont des aventuriers, ce sont des scientifiques, ce sont des sportifs. Qu'est-ce qui les caractérise?
Il y a un peu tout ça. En fait, il y a un peu tout ça. Il y a effectivement des scientifiques. Comme Santos Dumont est passionné d'aéronautique, tout simplement, des amoureux du ciel. D'ailleurs, Santos Dumont écrira un ouvrage qui est disponible sur Internet, vous pouvez le trouver en format PDF, qui s'appelle « Dans l'air » et qui date de 1904. Et puis, il y a toute une élite mondaine, plutôt française, particulièrement de riches industriels. Il ne faut pas l'oublier aussi, ces clubs-là, c'est des clubs où les gens se rencontrent et où ils parlent aussi argent. Et que servent les clubs aéronautiques et les clubs automobiles auxquels ils appartiennent également pour certains d'entre eux à ce moment-là, c'est le pétrole. Et donc l'un des grands membres fondateurs de l'Aéroclub de France, c'est Henri Dutch de la Meurthe, avec son frère Émile Dutch de la Meurthe, dont on peut voir d'ailleurs un très beau portrait par Léon Bonnard de cette section dédiée à l'Aéroclub de France au Musée des Avelines actuellement. Ouais. Ils fondent en fait l'entreprise Jupiter, qui est une entreprise pétrolière et qui deviendra la Shell France après la Seconde Guerre mondiale. Il y a toujours un intérêt derrière à organiser des compétitions.
Cet intérêt n'était pas que matériel. Ces grands industriels donc, qui vont financer cette aventure.
Il est parallèlement ou avant tout un intérêt.
Pardonnez-moi, c'était des aristocrates. Ils étaient très riches parce que c'était des industriels qui avaient réussi, mais d'un autre côté, ils ont permis cette aventure. Alors, la question que je voulais vous poser d'ailleurs, parce que il y a un très beau portrait aussi du comte de Lavaux que vous présentez dans cette salle consacrée à l'histoire de l'aéroclub. Eux-mêmes, ceux qui sont donc, qui ont financé cet aéroclub, eux-mêmes étaient des aventuriers, eux-mêmes volaient. Donc c'est,
bien sûr, parce que vous savez, cette idée de la poésie, cette idée du rêve que moi j'avais envie de faire passer à travers les œuvres présentées dans l'exposition, bah, c'est pas si ça n'a pas été si compliqué pour moi de le faire, parce qu'en fait, ce sont tous des grands rêveurs, que ce soit des industriels ou voilà. Mais certains d'entre eux ont également été des explorateurs, des aventuriers. Alors, on parlait de Santos Dumont et on en reparlera. Henri Delaveau, c'est typiquement le cas. Henri Delaveau, il fonde une société en 1908 qui est la société Zodiac qui construit des dirigeables. Mais en fait, avant tout, il participe en 1900 à l'épreuve de ballon aéro-montgolfière aux Jeux Olympiques. Parce qu'il y avait une épreuve aux Jeux Olympiques avec des ballons et remporte d'ailleurs à ce moment-là le Grand Prix de l'aéronautique où il est sacré champion du monde de distance en ballon. Parce qu'il a fait Paris-Kiev, imaginez bien, en ballon. Donc c'est 1925 km, hein, c'est à la fois loin et proche, mais et ben, tout ça en ballon. Et puis, je vous parle du rêve aussi, parce que c'est tellement un rêveur qu'il en est devenu un écrivain du ciel, et il a écrit, comme Santos Dumont d'ailleurs, hein, qui a écrit lui dans l'air, je vous l'ai appris à l'instant, mais lui, comme c'était un proche de Jules Verne, il a publié en 1925 un roman d'aventure qui s'intitule « 100 000 lieues dans les airs ».
Alors, vous décrivez, Damien Chantraine, dans cette partie, l'intense activité de cet aéroclub en ballon et en dirigeable. En tout cas, on n'est pas encore dans l'avion, on est toujours dans les ballons et dans les dirigeables. Et vous dites que ce parc, donc sur les coteaux, devient une base de préparation pour les records.
Complètement. Alors, le parc des coteaux est parfaitement adapté pour les vols. Qui a un léger départ à la verticale et qui ensuite peuvent partir à l'horizontale. Vous voyez, donc les ballons et les dirigeables un peu plus tard. Mais la piste est beaucoup trop courte pour des avions. Et ça, on en reparlera justement. Avions généralement décollent d'Issy les Moulineaux, de Meudon, d'autres bases en fait de l'ouest parisien, avant d'ailleurs de s'établir plus loin dans l'est parisien, jusque dans la Marne.
Mais on n'en est pas
encore. Nous sommes au tout début du 20e siècle, et de ce fait, il n'y a pas encore d'avions.
C'est ça, et on est toujours dans cette aventure extraordinaire des ballons et des dirigeables. Il y a aussi ce que vous proposez dans cette salle, c'est magnifique, c'est la fameuse coupe.
Ah oui,
Dutch de la Meurthe, qui est historique, alors vous la présentez, en effet. Qu'est-ce que c'est que cette coupe, comment a-t-elle été créée?
Alors, Dutch de la Meurthe, je vous en ai parlé à l'instant, c'est un industriel, c'est un de mécènes, c'est l'un des membres fondateurs de l'Aéroclub de France. Il y a plusieurs prix en fait. C'est très compliqué parce que les prix s'arrêtent, puis après ils reprennent, puis même après la mort d'Henri Dutch de la Meurthe, sa femme, en son hommage, recrée un prix Dutch de la Meurthe. Le premier prix Dutch de la Meurthe, c'est celui que Dutch de la Meurthe, encore vivant, en 1901, est remporté par Alberto Santos Dumont. On en reparlera tout à l'heure. Après, il y a des prix de ballon, et puis il y a des prix aussi qui sont donnés à des avions. Pas au départ de Saint-Cloud.
Alors plus tardivement.
Et la coupe que vous voyez au musée des Avelines, c'est la coupe de l'année 1921-1922.
Ah, donc là, c'est vraiment, on est dans les avions.
Voilà, qui a été remportée par Georges Kirsch, qui est un aviateur qui est parti de l'aérodrome d'Étampes et qui a fait un parcours qui était un parcours de 300 km au-dessus de l'Île-de-France dans des conditions météorologiques très très difficile et aux commandes d'un Nieuport de l'âge, c'est ce qui plan. Alors un avion de chasse monoplace français. Et il a atteint des records en fait de vitesse qu'on connaîtra très très peu à l'époque, presque 300 km/h.
Donc revenons à cette époque de ballons et de dirigeables. Est-ce que les vols étaient tout aussi dangereux qu'au XVIIIe siècle? Alors vous nous dites quasiment le tiers disparaissait, mourait en quelque sorte au combat.
Oui.
Et là, c'était toujours aussi risqué de voler en dirigeable et en ballon à partir des coteaux de Saint-Cloud que ce l'était par le passé?
Oui, c'est très risqué, très très risqué. C'est moins risqué qu'au XVIIIe siècle parce qu'on maîtrise mieux justement l'air et son vol dans l'air. Et puis il y a la mécanique qui se joint à ça, c'est-à-dire qu'on peut d'autant mieux contrôler son parcours que les dirigeables sont motorisés. Et donc avec des moteurs vraiment développés par des sociétés amies de ceux qui développent les dirigeables eux-mêmes.
Ce qui est la différence avec le ballon.
Ce qui est la différence avec le ballon justement, et ce qui permet une maîtrise totale de l'engin, comme c'est le cas d'ailleurs pour Alberto Santos Dumont qui, si je peux revenir à ce premier prix Dodge de la Meurthe,
oh,
en 1901, remporte 100 000 francs, qu'il donne d'ailleurs aux bonnes œuvres immédiatement, pour avoir, depuis Saint-Cloud, fait le tour de la Tour Eiffel et être revenu à sa base,
à son point de départ. Le prix Dodge de la Meurthe, c'était effectivement partir des coteaux de Saint-Cloud, faire le tour de la Terre Eiffel et venir. Et celui qu'il faisait le plus rapidement gagnait cette
coupe. En moins de 30 minutes.
Ah, il fallait faire en moins de 30 minutes.
Alors, son prix a été contesté au départ. Parce qu'en fait, il a fait 30 minutes et 40 secondes.
Mon Dieu.
Mais bon, on s'en est arrangé. Puis il était membre de l'Aéroclub de France.
Ça reste toujours 30 minutes.
Donc, il l'a fait en 30 minutes. Alors, c'est un prix qui a été lancé en 1900 et il l'a obtenu il a fait le parcours en octobre 1901 et il a obtenu le prix en novembre. Après que tout soit clarifié par rapport à cette contestation des fameuses 40 secondes. Puis de toute façon, en fait, Santos Dumont était déjà devenu une égérie française. Et on peut venir à ce.
Voilà, je vous propose d'en parler parce qu'il y a deux personnalités marquantes que vous mettez en avant dans cette partie consacrée donc à l'Aéroclub de France sur les coteaux. Lieu donc d'intense activité ballon dirigeable et de record. Eh bien, ces deux personnalités, ce sont bien sûr Santos Dumont. Mais aussi Georges Besançon. Alors,
oui.
Santos Dumont, tout le monde connaît son nom, mais nous sommes peu de personnes connaissent vraiment son histoire. Mm-hmm. Et ça fait assez triste d'ailleurs qu'on découvre dans ce que vous racontez dans cette exposition. Et puis aussi, indissociable de Santos Dumont, c'est Georges Besançon. Alors que lui est complètement oublié.
Complètement oublié.
Vous mettez justement en avant.
Alors, Georges Besançon, il est abordé dans cette section sur l'Aéroclub de France parce qu'il était secrétaire général de l'Aéroclub pendant près de 30 ans. Donc c'est quand même quelqu'un qui a compté aussi dans l'histoire de la navigation aérienne parce qu'il a accompagné notamment dans son développement et encouragé plusieurs aéronautes comme Santos Dumont lui-même d'ailleurs qui était son ami, mais aussi Salomon André qui sera le futur explorateur du pôle Nord en ballon. Il s'est associé au physicien Gustave Hermite pour mettre au point les premiers ballons sondes. Donc il a eu aussi une importance dans le développement de l'histoire de la météorologie. Parce qu'on pouvait aller voir justement dans les nuages ce qui allait se passer quelques heures ou quelques jours plus tard par rapport à la météo. Mais surtout, Besançon fonde en 1893 la revue L'Aérophile, qui est une revue de sciences et techniques et qui devient rapidement une référence mondiale dans le domaine de l'aéronautique. Il y publie des articles sur les progrès de l'aviation, les performances des aéronefs, les brevets, les essais, les démonstrations publiques. Et puis, ça devient une sorte d'organe de communication, voire de propagande de l'aéroclub, à partir du moment où il en devient secrétaire général, dès la création de l'aéroclub en 1898. Donc, tous les exploits de l'Aéroclub de France sont racontés dans cette revue, l'Aérophile.
Je vous laisse évoquer...
Une forte amitié, avec Santos Dumont.
Oui. Et avec une correspondance importante, d'ailleurs.
Oui, parce que Santos Dumont n'était pas tout le temps en France. En fait, il est originaire du Brésil, où il est né. Il a longtemps rêvé, justement, de cette nation française qui, pour lui, était la nation de l'aéronautique, la nation... des aérostats, c'est-à-dire des ballons. Et ça n'est pas pour rien, en fait, qu'il rejoint Paris tout jeune. C'est justement pour faire sa première ascension. Et dès lors, en fait, il rencontre les gens qu'il faut, notamment Henri Lachambre, qui est un développeur d'aérostats de loisirs. Et il monte d'ailleurs dans le ballon d'Henri Lachambre pour faire quelques kilomètres. Une centaine de kilomètres d'ailleurs, c'est son premier vol. Et après, il a l'idée de s'associer avec lui pour fonder son entreprise. Dès 1899-1900, on le suppose d'ailleurs avoir acheté un terrain à Saint-Cloud, où il aurait construit un hangar. En tout cas, c'est ce qu'il raconte dans son que ce soit vrai ou faux, dans son ouvrage « Dans l'air » en 1904. Mmh. Et peut-être que c'est justement ce terrain-là qui a été vendu à l'aéroclub, comme il en est l'un des membres fondateurs, et récupéré donc par l'aéroclub en 1901.
De ces terrains de l'aéroclub, il reste quelque chose ?
Oui, c'est un stade de foot maintenant. On peut y venir y faire du sport, un autre sport certes, mais un sport.
Il n'y a pas de bâtiment qui nous rappelle cette aventure.
Un petit bâtiment des années 1910 qui est encore en place, qui sert d'entrée à ce stade de foot, mais surtout, c'est un stade de foot de loisirs, hein, vous ne verrez pas de le PSG là-bas. Hein, par contre, vous y verrez encore des anneaux de maintien des aérostats, des ballons. Voilà, il y a encore les ballons, les grands anneaux en fait qui sont arrimés au sol de ce stade de foot, en lisière du stade.
Santos Dumont se fait connaître bien sûr pour tous ses vols en dirigeable, la coupe Dodge de la Meurthe qu'il remporte, et puis il développe lui-même ses dirigeables. Dont un qu'il appelle sa bicyclette, qui lui fait des vols promenades autour de Paris. Il va prendre le café chez lui, d'ailleurs, au dernier étage de son immeuble, en amarrant ça. C'est tout ce que vous racontez, en effet, sur cette personnalité. Et puis, il va basculer, c'est un chemin très important dans l'aéronautique proprement dit, les avions.
Alors là, vous avez dit beaucoup de choses, mais on va y revenir à cette histoire que vous venez de raconter, qui fait partie en fait du légendaire. Parce que Alberto Santos Dumont a une réalité historique, c'est un peu comme le Christ, mais il y a quand même un légendaire, il y a quelque chose en fait qui se raconte autour de lui, d'autant qu'il devient très très vite un monument de papier. Il fait la une à partir de 1900, 1901, en particulier après avoir remporté ce prix Dodge de la Meurthe, et il devient un monument de papier parce qu'il fait les unes des journaux, il est connu comme étant un dandy, lui aussi, décidément. Qui a ses excentricités, et il se répartit à plusieurs reprises depuis le parc de Saint-Cloud en dirigeable pour aller chez lui ou au Maxim's prendre un thé ou mieux encore une liqueur, parce qu'il était amateur de liqueur, de chartreuse, de bénédictine. Il fallait bien se réchauffer dans l'air d'ailleurs. D'ailleurs, il a fait une publicité pour la bénédictine de Fécamp. Je vous invite à aller voir ce palais de la bénédictine à Fécamp qui est formidable. Si vous payez un petit peu plus, vous aurez la dégustation. Mais pensez bien à Santos Dumont qui déclara que s'il eût fallu boire de la bénédictine pour inventer les ballons, ils auraient été inventés depuis bien longtemps. Alors donc le légendaire Santos Dumont, un légendaire qui permet vite à notre ami de devenir un monument national. Il obtient la Légion d'honneur d'ailleurs en 1913, au moment où est inauguré un monument, non pas à son effigie, mais à l'effigie de Dédale, celui qui monta dans les airs pour échapper au labyrinthe avec son fils Icare. Et ceci à Saint-Cloud, dans le quartier des Coteaux. Donc vraiment, c'est un monument qui existe encore de nos jours. Donc je le rappelle, inauguré en 1913, malheureusement fondu en 1942 par le gouvernement de Vichy pour l'armement de guerre nazi. Et en 1952, refondu à l'identique grâce à une souscription du gouvernement brésilien. C'est un cadeau qui a été fait à la France. C'est beau comme histoire, hein. Alors à ce moment-là, déjà, on n'appelait plus ce monument Dédale. Pourquoi ? Parce que Dédale, lui, il a réussi à voler, il a réussi à s'échapper, mais son fils Icare s'est approché trop près du soleil, il est tombé dans la mer et il en est mort. Et malheureusement, en fait, c'est une mutation iconographique qui a trait aussi à la disparition de Santos Dumont. Et c'est sans aucun jugement que je le dis, Santos Dumont, en 1932, s'est donné la mort parce qu'il était atteint de la sclérose en plaques. Et ne voulait pas justement se voir disparaître, lui, grand sportif qu'il était, dans les affres de cette maladie.
C'est la raison pour laquelle on appelle maintenant cette statue en effet Icare et que l'on peut admirer en effet toujours dans sa clou, mais qu'on peut aussi voir dans l'exposition. Vous la présentez ainsi d'ailleurs qu'un
merci
très
de
beau
le rappeler.
Bouchon de radiateur. Vous présentez de très beaux objets sur cette aventure. Il faut que je vous laisse les présenter. Et puis aussi un objet extraordinaire. J'encourage vraiment les auditeurs de Radio Courtoisie à venir le voir. C'est très impressionnant. Doublé d'ailleurs... d'une superbe peinture qui le représente dans les airs. Et c'est au musée de Saint-Cloud, chers auditeurs, au musée des Avelines, à Saint-Cloud, rue Gounod, Saint-Cloud dans les nuages, une aventure aéronautique, une exposition à ne pas manquer. Alors Damien Chantraine...
Vous avez parlé de...
Je vous laisse évoquer les... Oui.
D'Icare, justement. Hein. Alors on a une réplique très fidèle qui a été faite en 1913 justement, et qui est conservé par Dassault Aviation, qui nous l'a prêté pour l'exposition. Une réplique de petite dimension, mais assez grande quand même, hein, finalement. Quand on rentre dans la salle, on voit c'est grandiose.
On la voit bien.
Cet Icare qui déploie ses ailes. Et puis, en effet, ce plus petit objet, qui est un bouchon de radiateur, qui nous est prêté par le Musée de l'Air et de l'Espace, pour une automobile Farman, et qui date de 1920, qui est en fait une déclinaison à l'échelle industrielle hein, de notre Santos Dumont, de notre Icare de Saint-Cloud. Puisque dans les années 1920, alors que l'automobile devient un symbole de modernité et de prestige, eh bien les frères Farman, qui sont des pionniers de l'aviation reconvertis dans l'automobile de luxe, un peu comme les Rolls-Royce, hein, choisissent comme emblème ce singulier Icare.
Voilà. Alors je voulais quand même évoquer, il faut en parler, c'est ce qu'a fait Santos Dumont dans l'aviation, parce que c'est le moment où on bascule dans l'aéronautique, et ça c'est un point très important, et un passage important de votre exposition, vous présentez finalement un certain nombre d'objets exceptionnels, parce que alors, Santos Dumont est surtout connu pour le baptême de l'air, en quelque sorte, en avion.
Oui, complètement.
On pense à lui pour ça, on pense
complètement.
Parce vous nous faites découvrir le rôle qu'il a eu en effet en dirigeable, avec la coupe de la Borte, les coteaux de Saint-Cloud, etc. Mais son souvenir avant tout, il nous marque pour le début de l'aviation.
Voilà, parfaitement. C'est le début de l'aviation, Alberto Santos Dumont, en tout cas en France. C'est un aviateur lui-même et il fait construire des avions. Il en invente. Des avions plus lourds que l'air, donc un des avions néanmoins léger, on va dire léger entre parenthèses. Son premier avion est appelé le 14 bis, c'est un biplan, vous savez, avec des ailes, deux ailes superposées, qui est d'ailleurs équipé d'un moteur que vous pouvez voir dans l'exposition, qui est un moteur Antoinette, parce qu'il avait des collaborations comme ça avec d'autres industriels. Et il réalise le 12 novembre 1906 son premier vol sur 220 mètres avec ce 14 bis dont je viens de vous parler, équipé de ce moteur, qui est conçu par un industriel qui s'appelle Léon Levavasseur, breveté en 1904. Donc ça, si vous venez justement à l'exposition, vous verrez ce moteur qui pèse quand même 230 kilos et qui est présenté à l'étage et qui ne passait pas par l'ascenseur. Vous voyez qu'on a de courageuses personnes aussi pour monter l'exposition. Donc, c'est pas rien quand même de faire voler cette masse en altitude. Donc, la demoiselle, qui est plutôt développée l'année suivante, on est en 1907-1908, c'est un avion plus léger, un avion plus habile, plus agile également en air, qui s'apparenterait à ce qu'aujourd'hui on appelle les ULM. Voilà, donc là, c'est 110 kilos au total. Hein, il y a... la grosse partie en fait du poids c'est le moteur, mais en réalité c'est un avion fait de bambou et de tissu, hein, c'est vraiment pas grand chose. Ce qui pèse le plus c'est le moteur, puis c'est l'aéronaute, celui qui monte dans l'avion, parce que c'est juste une seule place, hein, c'est un monoplace. Santos Dumont s'élève pour la première fois avec une demoiselle en 1908 depuis le parc d'aéronautique de Dissy-les-Moulineaux. Puis ensuite, il y a des vols qui sont faits depuis le parc de Bagatelle également, qu'on peut voir d'ailleurs encore aujourd'hui depuis Google Maps. Hein, oui. Regardez, c'est assez intéressant de voir la place que prend ce petit parc. Qui est un parc d'envol en fait, d'avions. Voilà. Donc ces avions-là ne s'envolaient pas. Plus depuis Saint-Cloud, hein. Vraiment tout ça a été réalisé dans les Hauts-de-Seine, autour de Paris.
Alors cette maquette, vous présentez quand même cet objet exceptionnel qui est une maquette, hein, de la demoiselle. C'est une maquette très, très intéressante. Cet avion pèse 110 kg, il monte quand même à 90 km/h. Ça dit le bon.
C'est une prouesse technique.
C'est extraordinaire, oui.
C'est une prouesse technique, alors d'autant plus que il sera répliqué immédiatement à 50 exemplaires, en fait. Il connaît de très nombreuses commandes et c'est un peu l'avion de loisir, comme aujourd'hui l'ULM.
Et alors, il faut souligner, moi, j'ai même vous l'évoquer, parce que je trouve que cette peinture magnifique, on voit la demoiselle en vol. Je vous laisse l'évoquer.
Oui, puis alors avec ce magnifique titre en plus, on est encore dans la poésie, André de Vambèze qui a réalisé cette œuvre l'a intitulé « Le seul oiseau qui vole au-dessus des nuages ». Non mais c'est fantastique quand même de trouver des titres pareils. 1910, il réalise cette œuvre suite à un grand cycle décoratif qu'il a réalisé pour la nouvelle ambassade de France à Vienne, donc en Autriche, commande de 12 panneaux. Sur les différentes machines modernes. Donc il y a un panneau pour le téléphone, un panneau pour l'automobile, le métro et bien entendu l'avion. Et il les décline ensuite, hein, ces panneaux, sur ce petit tableau notamment qui appartient au musée d'Orsay, qui nous l'a prêté pour l'occasion. Et c'est une Antoinette qui est représentée avec le moteur Antoinette qui est présenté à côté dans son entier.
Alors, Damien Chandrenne, malheureusement, il ne reste que 7 petites minutes à passer en votre compagnie pour finir le parcours de cette exposition. Je pense qu'il y a 3 choses que j'aimerais bien que vous évoquiez pour les auditeurs de Radio Courtoisie, les encourager à venir vous visiter au musée des Avelines à Saint-Cloud. Et c'est d'une part toute une partie de l'exposition qui nous fait découvrir le rôle des femmes dans cet aéroclub.
Le rôle des femmes, bien sûr.
Et c'est impressionnant parce qu'elles aussi n'étaient pas dénuées de courage. Et puis, Dassault Aviation aussi, est toute une salle que vous consacrez à Dassault, et il y a un simulateur de vol, donc crash garanti, hein, pardonnez-moi cette expression, cet horrible accident garanti.
Ça, hein, c'est la surprise du chef. Vol.
Écrasement garanti. Et puis aussi, en troisième point, vous proposez beaucoup d'activités autour de cette exposition. Et je pense que c'est bien que vous en indiquiez quelques-unes.
Je vais essayer de faire ça de façon synthétique, mais remettons là l'histoire de ces femmes à leur juste place. En effet, parce que c'est loin d'être artificiel à Saint-Cloud et dans cette exposition. En effet, puisqu'il y a l'Aéroclub de France à Saint-Cloud, cette base d'envol finalement de ballons et de dirigeables, bien, il y a une personnalité importante qui est une femme d'aéronaute. C'est Marie Surcouf. Marie Surcouf, elle est mariée à Édouard Surcouf, qui est membre de l'Aéroclub de France. Et en 1906, elle crée un comité des dames au sein de cet aéroclub. Elle s'envole depuis Saint-Cloud dans une montgolfière, toute seule. Et elle va fonder avec ses copines, certainement aussi des femmes d'aéronautes mais qui veulent voyager aussi sans leur mari. La Stella, elle l'appelle cette association comme ça, en 1909.
Premier
la Stella,
de
nouvelles étoiles dans le
monde.
Ciel, qui est le premier aéroclub féminin au monde. Et c'est à Saint-Cloud, vous imaginez. Voilà. Donc elle traverse le ciel avec des ballons qui ont souvent des noms de fleurs, les bleuets, les roses, etc.
Et vous verrez que le programme, c'est compétition et mondanité.
Complètement.
Mais ça disparaît avec la guerre.
Oui, 1914.
Oui.
Alors on a aussi la possibilité de parler de Dassault Aviation.
Oui,
quand même,
c'est important. Vous consacrez une salle complète avec notamment deux œuvres, là aussi, de ce peintre de Buchère.
Oui.
Que vous recevrez, alors peut-être pouvez-vous mentionner dès maintenant que vous allez recevoir ce peintre de la marine et de la
Audi. Le 27 juin, si je ne me trompe
27
pas.
27 juin à 16h.
À 16h, alors il faut
pour
réserver.
Un échange,
c'est un échange, oui, j'aime bien faire ça. Ça fait quelques temps que je le fais au musée des Avelines. Je reçois quelques personnes spécialisées dans leur domaine, mais là c'est un artiste pour la première fois. Et nous allons parler, nous allons laisser libre cours aussi aux questions des auditeurs pour rencontrer donc un artiste qui va vous raconter toutes ses aventures en fait, en étant peintre de la marine et peintre de l'air. Ah, ça va être un temps formidable.
Certainement.
Et donc il a sa place dans cette salle Dassault Aviation parce qu'il a fait une œuvre représentant un Jaguar qui a été développé par Dassault et Breguet, mais également la chaîne de fabrication Rafale qui est à Argenteuil. Mais en fait, revenons-en à Saint-Cloud. Pourquoi Dassault à Saint-Cloud?
Pourquoi Dassault à Saint-Cloud? C'est comme le siège avec. Il y a aussi une pièce qui est magnifique, c'est la grille. Vous l'évoquez.
Nous sommes non loin à Saint-Cloud de Suresne, où se trouvait l'entreprise de Louis Blériot depuis un tout petit peu avant la Première Guerre mondiale. Il y avait 10 000 mètres carrés qui dépassaient sur le territoire de Saint-Cloud, qui ont été vendus à Marcel Bloch, qui deviendra après-guerre Marcel Dassault, du nom de résistance de son frère. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est le siège social, le siège de la communication aussi, le siège du bureau d'études. Il y a une usine à cette époque-là, on fabrique des avions à Saint-Cloud, ce qui n'est plus le cas de nos jours. Les centres de fabrication sont un peu partout en France et puis dans le monde. Et donc,
mais le siège est toujours présent.
Le bureau d'études est toujours présent, ce qui explique d'ailleurs dans l'exposition la présence de curieuses, pour ceux qui ne connaissent pas, maquettes de soufflerie. Oui. Donc c'est des maquettes qui sont faites pour étudier justement l'entrée de l'avion dans les airs, la manière dont il se comporte, etc., avec des grosses souffleries qui se trouvent à Saint-Cloud.
C'est Dassault qui vous a prêté le simulateur ?
Tout à fait, c'est un simulateur qui a été développé par...
C'est assez humiliant cette expérience. Par... Hein.
Oui, pour vous comme pour moi, j'imagine. Mais c'est bien parce que vous l'avez fait, vous avez été courageux.
Entendu, je me suis écrasé à nombreuses reprises.
Attention à la nausée. Hein.
Mais enfin, pour les enfants, c'est formidable. Je pense.
J'adore, ils adorent.
Et oui, c'est fait.
Oui, il faut les voir, puis même les adultes aussi, en vérité.
Bien sûr, bah oui. Hein,
dès qu'on a les yeux tournés, les adultes montent dans le simulateur de vol. Donc, il a été développé par une branche de Dassault qui est Dassault Systèmes et qui a été présenté au Bourget, qui est maintenant permet de proposer cette expérience à nos visiteurs.
Alors, Damien, je suis en train de vous proposer de très nombreuses activités très intéressantes autour de votre exposition. Il nous reste juste une minute pour les évoquer. Je vous laisse en choisir quelques-unes pour les auditeurs. J'en profite pour rappeler que cette exposition Saint-Cloud dans les nuages, une aventure aéronautique, se tient au Musée des Avelines, 60 avenue Gounod à Saint-Cloud, que c'est gratuit, l'entrée est gratuite. C'est tous les jours de la semaine, sauf, je crois, le lundi et le mardi. C'est bien ça.
Il n'est pas ouvert le lundi et le mardi.
C'est ça, voilà.
Oui. Il est gratuit.
Alors rapidement, parce qu'il ne reste qu'une minute.
Écoutez, puisqu'on n'a pas assez entendu parler de Dassault, venez donc à la conférence qui est organisée au musée, intitulée « Dans le sillage de Marcel Dassault » et qui est proposée le 3 mai à 16h, c'est un dimanche, le 3 mai à 16h, avec Luc Berger qui est historien de la société Dassault. On a encore aussi une très belle balade historique en avant-première qui passera dans les différents espaces du musée mais aussi dans ce très beau jardin des Avelines. On espère qu'il fera beau, mais de toute façon c'est le 14 juin, donc c'est hautement probable, à 14h30 et à 16h30. À l'aventure avec moi, rencontre avec Christophe de Buchère le 27 juin à 16h. Il y a bien d'autres animations possibles.
Vous voyez sur le site internet, j'en crois une chasse aux œufs.
Rappelez-vous que c'est
prochain.
Gratuit. Hein? Rappelez-vous que c'est gratuit et il y a même une chasse aux œufs.
Merci, merci beaucoup à vous, Damien Chantraine, d'être venu ce soir évoquer
Thierry,
cette belle
merci
exposition.
Merci à vous tous, auditeurs.
Saint-Cloud dans les nuages au Musée des Avelines à Saint-Cloud. Très bonne soirée à vous et j'espère à une autre occasion.